À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité ? Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir, et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
Enquête d'avenir.
Le podcast.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. L'aube à l'aube.
Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec Vincent Wissner.
Oui, je suis en
train. Pour démarrer ce troisième volet de l'enquête, consacré à la nécessaire évolution de notre modèle socio-économique, j'ai choisi de m'intéresser au rôle des entreprises.
Bonjour.
Source de tous les maux pour les uns, parée de toutes les vertus pour les autres, je suis convaincue que de leurs décisions d'aujourd'hui dépend largement le monde de demain. Si elles poursuivent leur recherche de nouveaux marchés à conquérir, de croissance à améliorer, de profits à réaliser, alors nous sommes condamnés. À un monde dystopique où les plus 4 degrés de réchauffement paraîtront presque une réussite. Un monde où les plus riches sauront se préserver le mieux de la casse environnementale quand les plus pauvres s'entretueront pour survivre. Un monde d'après-demain, quand mes enfants auront l'âge d'être grands-parents, si toutefois l'effondrement général n'est pas passé par là avant. Mais si les entreprises changent d'objectif, si elles trouvent de bonnes raisons de s'engager dans la lutte contre la destruction de la planète et du climat, alors elles peuvent tout changer. Si l'impact environnemental de leurs activités devient le critère déterminant de leurs décisions stratégiques, alors on peut espérer voir disparaître les produits inutiles, les projets d'aménagement insensés et donc les comportements climaticides.
Je vous laisse la porte ouverte, comme ça,
ouais.
Et ça sera au fond. Mais je vais lui envoyer un petit message.
Oui, d'accord.
Pour lui dire.
Super, merci.
Pour mieux comprendre comment les entreprises peuvent être un levier de la transition et qu'est-ce qui peut concrètement y faire obstacle, j'ai contacté Vincent Wissner, directeur général de Profil, un cabinet qui accompagne les entreprises qui le souhaitent vers un changement de leur modèle.
Alors, Profil est un cabinet de conseil et de recherche avec l'ambition, ou plutôt la mission, d'ouvrir de nouvelles voies pour que les entreprises répondent au bien commun. Et donc, c'est notre ambition, elle est de contribuer à l'avènement de nouveaux imaginaires entrepreneuriaux, avec tout un travail sur l'imaginaire autour de l'entrepreneur, du rapport à la performance, à la valeur, au profit, aux limites, aux renoncements que ça doit générer au vu de nos enjeux actuels. Et j'insiste sur le fait qu'on est à la fois un cabinet de conseil, c'est ce qui nous fait vivre pour l'essentiel, mais aussi de recherche. Et on consacre beaucoup de temps à la recherche, avec la volonté de, une fois qu'on a produit une étude un peu charpentée, un peu étayée, on a toujours cette volonté d'engager une recherche-action pour développer des outils qu'on pourrait mettre demain entre les mains de dirigeants, d'actionnaires.
Associer accompagnement pratique et recherche académique pour pouvoir tester et fournir aux entreprises méthodes et outils nouveaux au service d'une autre contribution sociétale, voilà donc la raison d'être du cabinet où travaille Vincent. Implicitement, cela veut dire que la société attend de ses entreprises une participation au monde qui dépasse le seul cadre économique. Mais est-ce nouveau ?
C'est pas tout à fait nouveau, et ça dépend également du contexte national. Dans les pays anglo-saxons, il y a une culture philanthropique beaucoup plus forte qu'on peut trouver, beaucoup plus ancienne que l'on peut la trouver dans les pays européens. Mais dans les pays européens, on a un passé industriel paternaliste plus fort, qui ne trouve pas nécessairement d'équivalent aux États-Unis, en tout cas pas de manière aussi structurée. Donc ça, c'est sur cette dimension sociale. Donc on peut dire que ça fait quand même un certain nombre de décennies qu'il y a la prise en compte de responsabilités sociales en tant que telles vis-à-vis des collaborateurs et de l'écosystème autour de ces collaborateurs. Après, si on prend l'acception du bien commun avec dans une réflexion autour de la prise en compte de l'impact environnemental, je dirais que c'est beaucoup plus récent. Mise en place d'une politique RSE à l'échelle d'une entreprise, ça a peut-être effectivement une vingtaine d'années, et systématiquement avec une posture, en tout cas à l'origine, une posture défensive. Soit parce qu'elle s'imposait par le législateur, c'est l'exemple de la loi NRE, soit parce que le consommateur, la société civile, demandait aux entreprises de rendre des comptes. Donc c'était systématiquement dans une logique de montrer patte blanche, de montrer qu'on est fréquentable, et pas forcément dans une logique de transformative, dans une RSE que moi je qualifierais de stratégique, qui va venir véritablement percoler dans le modèle économique.
Tout le problème est là. La responsabilité sociétale des entreprises se définit comme leur contribution volontaire aux enjeux sociaux et environnementaux à travers leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs partenaires. Elle est aujourd'hui cadrée et normée, mais ce n'est pas parce qu'il y a un cadre que cela change fondamentalement le modèle d'affaires d'une entreprise. Ainsi, entrent dans le périmètre de la RSE des pratiques aussi diverses que la promotion de la diversité dans la politique de recrutement, les dons à des associations ou encore le mécénat culturel. On est donc bien loin d'une stratégie qui aurait pour principale préoccupation la conciliation de l'activité économique et de la préservation des ressources planétaires. Comment faire pour que les entreprises intègrent pleinement ces enjeux ?
J'ai quelques souvenirs de cours un peu de sciences politiques. Et dans mon vague souvenir, j'avais compris qu'il y avait trois grandes étapes quand on voulait qu'un courant de pensée inonde un petit peu une société. La première, c'était la question de la bataille des idées. Et là, j'ai l'impression qu'on y est. C'est-à-dire que dans les discussions que moi, je peux avoir avec des dirigeants, aujourd'hui, j'ai plus de dirigeants, ou en tout cas, c'est marginal, ou alors ils ne s'adressent pas à nous, qui, quand on leur parle des limites planétaires, quand on leur parle de la finitude des ressources, quand on leur parle de modèles économiques obsolètes, aujourd'hui ou demain, nous disent « mais tout ça, c'est une histoire de Khmer Vert, une histoire néo-marxiste, vous êtes des écolo-bobos, etc. » Aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc, j'aurais tendance à dire que la bataille des idées, elle est en passe d'être gagnée ou elle est gagnée. Le deuxième stade, c'est comment on fait bouger les institutions, la réglementation. Et là, pour le coup, il y a une certaine, de mon point de vue, inertie. On le voit dans les dernières déclarations gouvernementales.
Nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations en européen, plus que tous les voisins. On s'est donné les objectifs 2050-2030 pour décarboner, réduire les phytos, etc. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne.
Et la troisième sphère, justement, qui peut venir derrière ensuite, c'est la sphère des intérêts personnels, des lobbies, voilà. Et qui, de fait, peut être remise en cause qu'à partir du moment où la législation, la réglementation évolue et impose de fait un changement des règles du jeu. Et j'ai l'impression que là, on en est entre l'étape 1 et l'étape 2, où si, véritablement, on n'a pas un alignement fort de la réglementation, de la fiscalité, on aura du mal à véritablement changer la donne à l'échelle des entreprises, mais plus largement à l'échelle de notre société.
C'est d'une logique implacable. Pour changer de système, il faut bâtir un autre système dans lequel la vision, c'est-à-dire les idées, se traduirait dans la réglementation, ce qui conduirait à un changement dans les intérêts en jeu. Inutile de faire du lobbying pour les industries fossiles si l'autorité chargée de la vision a clairement énoncé la fin de l'aventure pétrolière et que les réglementations qu'elle met en place planifient et organisent l'arrêt de la consommation de ce type d'énergie. Oui, sauf qu'aujourd'hui, la vision du monde de demain se limite à la quête de l'énergie verte et que les réglementations restent parcellaires même si elles se développent. De là à faire basculer les entreprises dans d'autres logiques et d'autres modèles d'affaires, il y a encore pas mal de chemin.
Je crois que c'est Simone Veil qui évoquait ça, qui évoquait que il y a certes évidemment ceux qui sont asservis par le travail, mais il y a également les dirigeants qui sont asservis à une certaine forme de croissance, à une obligation de la croissance. Je ne sais plus qui disait, on se rend compte qu'on a des chaînes à partir du moment où on bouge, où on tente de bouger. On se rend compte qu'on a une forme de cécité attentionnelle, c'est-à-dire qu'on voit tout un tas de choses, mais on a du mal à voir l'éléphant au milieu de la pièce. On peut être amené à parler pendant des heures de la manière dont une entreprise va travailler sur l'éco-conception de son produit, va travailler sur le réemploi, va travailler sur une coopération avec la chaîne de valeur. Mais en fait, tout ça, on peut en parler pendant des heures, Et on ne parle jamais de se dire, est-ce qu'on remet à un moment donné en cause la trajectoire de croissance ? Ou ne serait-ce que de se dire, alors certes, je me donne cette trajectoire de croissance, mais si à mi-année, je me rends compte que je peux dépasser ce que j'imaginais dans mon prévisionnel, est-ce que je me cape à mon prévisionnel ou est-ce que j'essaie de maximiser ? Et rien que ça, c'est une première étape qui serait intéressante et qu'on voit quasiment jamais. Ne pas se poser la question de l'utilité, ne pas se poser la question de cette trajectoire de croissance et de ce qu'est la valeur et de son rapport à ça et à la performance, c'est ne pas se poser la réelle question qu'on doit se poser quand on parle de nécessaire transition, d'impérieuse transition.
Oh bah ça en fait des questions à se poser. Celle de la trajectoire de croissance, évidemment. C'est-à-dire, pourquoi dois-je chaque année augmenter mon chiffre d'affaires, donc mes ventes ? Mais derrière cette question, il y a aussi celle de la performance. N'est-elle que financière ? Peut-on comptabiliser autre chose que des résultats financiers pour évaluer la performance d'une entreprise ? Je me souviens de l'exemple de Florian Fizène sur le PIB, quand il parlait des fabricants d'armes de guerre. Techniquement, ces entreprises contribuent positivement au PIB. Mais à l'état du monde ? Se pose donc, et c'est sans doute la plus importante, la question de l'utilité d'une entreprise, donc des produits qu'elle vend, ou de son offre de valeur, pour parler techno. Est-ce vraiment utile de fabriquer des chiens en plastique qui remuent la queue et d'utiliser pour ça des litres et des litres de pétrole ? Est-ce utile de vendre des cigarettes électroniques jetables parfumées à la framboise ? Est-ce utile de fabriquer des goodies par milliers pour les salons professionnels ? Mais lequel de ces fabricants d'objets inutiles remettrait en cause la raison d'être de son entreprise ? Il est bien plus confortable d'évoquer l'utilisation de matières recyclées ou d'imaginer réemployer son chien en plastique en pot de fleurs que de questionner la nécessité de fabriquer et de vendre le produit.
Et là, aujourd'hui, j'ai pas un exemple d'entreprise qui véritablement est en capacité de faire un renoncement plein et entier sur une gamme entière. On a quelques entreprises qui vont mettre de côté certains produits. Je prends l'exemple de Mustela.
Notre souhait, c'est de nous donner 10 à 20 ans pour vraiment faire une transition de modèle qui soit vraiment régénératrice. Mais ça veut dire vraiment qu'ils prennent en compte la capacité des écosystèmes à se régénérer, qu'ils restent dans les limites planétaires, qu'il y ait une offre utile. Et puis on se réinvente.
Ils ont annoncé qu'ils arrêteraient la commercialisation de lingettes en 2027.
Donc ça veut dire que on réduit nos impacts, on va faire des renoncements.
Mais ça représente aujourd'hui 20% de son chiffre d'affaires, donc c'est pas non plus c'est pas une mince affaire. Et donc on peut comprendre, et puis nous c'est ce qu'on prône, que cette décision elle soit planifiée, qu'elle invite à identifier des relais de croissance, en tout cas des relais, et de se réorienter vers des produits non jetables, vers des produits solides. Voilà. On a d'autres exemples, de commerce, notamment de la mode, qui annoncent, alors c'est encore timide, mais qui vont essayer de décroître la vente de produits de première main et essayer de trouver un relais par le biais de la vente de produits de seconde main ou d'occasion. Mais on est encore aux prémices de ce qu'il faudrait faire. Et ça pose aussi la question de ce qu'on a été habitué à consommer. Doit-on mettre une prime à l'utilité sociale par rapport à l'impact environnemental de ce même objet ? Je peux prendre un exemple que j'ai moi-même acheté pour mes enfants. Une Décathlon a commercialisé avec, je crois, un certain succès des cages pliables pour jouer au foot. Voilà. Et en soi, c'est super, ça permet de jouer au foot à peu près partout. Voilà. Sauf que après avoir acheté ça, après avoir joué à ça avec mes enfants, je me suis dit, mais quelle différence réellement par rapport à avant, quand on mettait un sac à dos ou deux pulls pour faire des cages. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça... Et en fait, pas grand-chose. Alors oui, Decathlon pourrait se gargariser de dire qu'il facilite l'accès au sport pour le plus grand nombre, mais peut-être à un certain prix pour l'environnement.
Et voilà, un excellent exemple d'objet dont l'utilité peut être questionnée. Ah bah c'est sympa ces cages pliables, mais est-ce que leur utilité intrinsèque, par rapport à deux sacs ou deux pulls posés par terre pour symboliser les buts, justifie l'extraction de matière et l'énergie consommée par le processus de fabrication ? Mais je sens qu'on s'approche ici d'un sujet hautement inflammable. Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Comment faire la différence entre envie et besoin? Comment hiérarchiser? Et qui décidera, in fine? La définition des rayons non essentiels des supermarchés pendant le Covid a donné un aperçu du caractère nécessairement arbitraire de ces classifications. Faudra-t-il alors donner aux objets une note carbone qui pondérerait leur utilité sociale avec l'impact carbone de leur fabrication? Et donner aux consommateurs des crédits carbone limités sur l'année pour consommer ces objets? Quant aux entreprises, comment peuvent-elles considérer objectivement l'utilité de leur activité alors même que de cette activité dépend leur survie?
Qu'une entreprise ne s'aligne pas du jour au lendemain, c'est évident. Qu'elle ait des doutes, qu'elle ait des tâtonnements, c'est évident. Qu'elle puisse pas shifter son modèle du jour au lendemain, évidemment. Mais par contre, il nous paraît assez essentiel qu'elle puisse le faire avec sincérité, en évoquant ses atermoiements, ses difficultés, ses erreurs, et qu'on puisse pas lui faire un procès en greenwashing, en purpose washing ou mission washing, comme tu veux. Et ça, c'est un élément important. Et cette transformation, on le dit en permanence, elle s'inscrit quoi qu'il arrive sur le temps long, et cette dimension temporelle, elle est extrêmement importante parce que c'est le gage d'une acceptabilité, c'est le gage d'un certain pragmatisme de l'approche. Ça induit de questionner les acteurs de la R&D sur comment je conçois à l'origine mon produit. Ça invite à questionner les acteurs du marketing, du commerce, sur justement comment je fais évoluer un petit peu mes pratiques de vente, de communication, comment je passe davantage d'une logique de maximisation du volume de vente de mon produit à une logique plus de sensibilisation, de sens, comment je me donne un certain nombre de limites dans les outils qui sont aujourd'hui utilisés dans le marketing. Ça veut dire, moi, acteur de industrie automobile, je m'astreins dans les publicités et Dieu sait que ça représente un poste important chez eux. Je m'astreins systématiquement dans mes publicités à montrer une voiture qui est une voiture remplie et non pas une seule personne au volant, ou une voiture en milieu urbain seule, sans aucune congestion, sans aucun trafic, qui donne un imaginaire, une croyance de liberté qui assoit un petit peu ça, un peu ce matraquage qu'on a en permanence.
La liberté, ce n'est pas juste pouvoir se déplacer. C'est bien plus. C'est de pouvoir réaliser ses rêves, ses projets. Affirmer cette liberté ne dépend que de vous. Nouvelle. La liberté est un état d'esprit.
Cette exposition qu'on a en permanence et qui structure nos logiques de consommation, ça invite à se questionner sur les acteurs de la supply chain. Comment j'ai une approche de la logistique moins impactante en réduisant les distances. Donc ça veut dire aussi comment j'ai un travail de sourcing, d'achat, éventuellement de travailler une relocalisation de la fabrication, donc tous les métiers de l'achat, du sourcing, de la production. Ça invite à questionner également les métiers du chiffre, donc du contrôle de gestion, de la finance, parce que j'ai des engagements, mais qui vont peut-être venir minorer, en tout cas à minima à court terme, mes résultats. Donc il faut quand même que je sois en capacité de comptabiliser aussi les résultats potentiellement positifs sur la réduction de mon impact environnemental. Donc ça veut dire comment je fais évoluer aussi, comment j'élargis le spectre de travail de mes contrôleurs de gestion, enfin de l'ensemble des professions du chiffre, comment je fais évoluer mon alphabet comptable.
Tiens, tiens, ce n'est pas la première fois que j'entends cette réflexion sur l'évolution de la manière de compter. Qu'il s'agisse de remplacer le PIB par un autre indicateur ou de pouvoir mesurer la contribution positive d'une activité sur le climat. On en avait déjà parlé à propos des agriculteurs avec Aude Vinsrich et Florent Gull.
Ça veut dire questionner également la politique RH, comment j'objective, je fais évoluer mes critères d'objectivation de mes cadres, de mes dirigeants en intégrant une prise en compte des enjeux environnementaux ou sociétaux. La transformation société à mission, si elle est faite encore une fois de manière sincère, ça vient tout de même, a priori, mettre à l'agenda des actionnaires, mettre à l'agenda du COMEX une certaine forme d'obligation à poursuivre cette raison d'être, cette raison d'exister, et donc à y dédier des ressources et à faire la démonstration qu'on poursuit cette raison d'être. Et j'ai un exemple, le fait que Danone, en juin 2021, je crois, ait obtenu cette qualité juridique d'entreprise à mission, et quelques mois plus tard, ait annoncé la suppression de plusieurs milliers d'emplois de façon à préserver les marges et la prévision de dividendes, pose évidemment un certain nombre de questions. Après, je ne veux pas non plus faire d'angélisme. Pour que l'entreprise fasse du bien, il faut qu'elle aille elle-même bien. Et ça, c'est un élément important. Tous ces engagements induisent évidemment au préalable qu'il y ait une certaine forme de profitabilité minimale pour évidemment avoir une circularité dans le profit qui est généré par l'entreprise.
Une entreprise doit donc avoir les reins financièrement solides pour entamer un changement de son business model. Mais ce n'est pas la seule condition à réunir.
Après, pour moi, il y a trois grandes dimensions. Il n'y a pas forcément de primauté à une brique plutôt qu'une autre. La première, c'est la question de la gouvernance et du partage de la valeur. Ça renvoie à plusieurs questions. D'une part, ça renvoie à ce qu'on évoquait, la question de la capacité à partager la valeur qui est générée par l'entreprise, à la fois avec ses parties prenantes internes. Donc comment je redistribue, pas que aux investisseurs en capitaux, mais aussi ce que certains appellent les investisseurs en travail, autrement dit les salariés, qui à certains égards ont aussi cette logique d'investisseur. Ça renvoie aussi plus largement à comment je redistribue, comment encore une fois j'engage cette dynamique de circularité des profits. C'est l'exemple des dividendes sociétaux, environnementaux annoncés par certains acteurs. Et l'aspect derrière gouvernance et partage de la valeur, c'est plus largement comment j'ouvre mes décisions, mes instances de décision à des acteurs plus larges, donc à des parties prenantes actuelles, ou à des parties prenantes qui, aujourd'hui, sont sans voix. Donc, c'est toutes les réflexions actuelles sur est-ce que le vivant peut être un acteur qui doit siéger dans ces instances. Est-ce qu'on doit leur donner une personnalité morale et donc un droit juridique? Et puis, la question aussi de quelle place pour les générations futures.
Il faut que les écosystèmes puissent se défendre en justice.
On se pose rarement la question de savoir quels sont les droits des non-humains.
Le jeu, à la fois pour l'imaginaire institutionnel, politique et pour nous autres, en fait, c'est de faire basculer des entités naturelles qui étaient considérées comme des choses du côté des sujets.
Le monde vivant ne pourra jamais être défendu que si les structures juridiques elles-mêmes changent fondamentalement.
Si demain on a une entité juridique loi, en fait, le rapport des riverains va changer. On aura une entité, on aura une personne, on aura donc une relation beaucoup plus étroite entre des sujets humains et un grand sujet, une vaste personnalité que serait la rivière.
En Nouvelle-Zélande, sans doute une première mondiale, un fleuve a été reconnu hier entité vivante par le Parlement. Il a désormais une identité juridique et ses intérêts pourront être défendus. Le Whanganui, troisième plus long cours d'eau du pays, est sacré pour les Maoris qui se battent depuis le 19e siècle pour la reconnaissance de leurs droits sur ce fleuve. Ils ont donc eu gain de cause.
Déjà en France, on a tous les outils juridiques pour le faire. Il suffirait soit qu'un juge audacieux et imaginatif, eh bien un jour dise que la Loire ou Rhône ou la Seine a le statut de sujet de droit et on y serait. La première chose concrètement, c'est qu'ils peuvent effectivement établir une liste de leurs droits. Donc le droit à couler librement, le droit à ne pas être entravé, leur droit à la santé écologique. Donc on va reconnaître un certain nombre de droits et ensuite, eh bien, cette entité, ce sujet de droit de la nature, va avoir à défendre ses droits, comme n'importe quelle entité dans l'espace social.
Donc, si je résume, changer la gouvernance de l'entreprise passe par matérialiser, dans cette gouvernance, les parties prenantes non économiques qui ont un intérêt à l'activité de l'entreprise. Entendu au sens large et avec un peu de créativité, ça peut vouloir dire chercher à représenter, au sein de cette gouvernance, des entités sans personnalité juridique, comme le vivant, ou l'eau ou la forêt, et aussi des entités qui n'existent pas encore, comme nos descendants, les générations futures. Ça demande une certaine ouverture d'esprit, mais aussi de l'inventivité juridique pour faire exister en droit et dans les processus de décision ces entités inédites. Mais j'ai l'intuition qu'il y a d'autres conditions à réunir.
Plus largement, ça renvoie aussi à deux entrées qui sont d'avoir une volonté d'impacter, de contribuer, de se transformer. Et la deuxième dimension, c'est la détention du capital. Qui détient le capital ? Et ça renvoie à ce que nous, on essaye de développer, qui est les modèles un peu hybrides, notamment de fondations actionnaires, qui, en deux mots, visent à permettre pour les entrepreneurs qui le souhaitent de se déposséder d'une partie de leur capital, de toute ou partie de leur capital, au profit d'une fondation actionnaire, la plupart du temps d'un fonds de dotation, qui du coup aurait un double objet. D'une part, un rôle actionnarial, et donc qui aurait un siège et une voix au sein du conseil d'administration et plus largement des instances exécutives, et puis un rôle philanthropique et qui serait soutenu par les dividendes générés par cette qualité d'actionnaire. Et la plupart du temps, les entrepreneurs qui souhaitent se déposséder sont souvent aussi dans une recherche de transmission, dans une phase de transmission de leur entreprise. Quand on a fondé son entreprise, on n'a pas forcément non plus de voir potentiellement disparaître l'ADN, la culture de l'entreprise, les valeurs qu'on a mises dans l'entreprise au travers d'un rachat par un concurrent ou par une autre structure. Et donc, il y a ce modèle un peu hybride de la fondation actionnaire qui permettrait d'encapsuler un peu ces valeurs, de donner une pérennité à l'entreprise et du coup aussi de rendre incessible à certains égards l'entreprise parce que ça ne donne pas de possibilité de rachat des parts qui sont détenues par la fondation.
Arrêtons-nous un instant sur cette histoire de capital. C'est effectivement essentiel pour déterminer quelles sont les marges de manœuvre réelles d'une direction d'entreprise pour engager une transformation de son modèle d'affaires. Pour faire simple, si le capital est détenu par des actionnaires convaincus de l'urgence à agir, l'entreprise pourra engager sa transformation. Si elle est détenue par des actionnaires plus soucieux de la rentabilité de leur portefeuille que de rendre le business model compatible avec les limites planétaires, eh bien c'est mal barré, pour ne pas dire inenvisageable. C'est pourquoi les multinationales mondialisées, détenues par de multiples actionnaires ayant des intérêts principalement financiers, je pense par exemple aux fonds de pension, sont moins susceptibles de pivoter. Contrairement aux PME et aux ETI familiales, par exemple, qui sont détenues par un seul ou seulement un petit nombre d'actionnaires, voire détenues par la famille qui dirige l'entreprise, ou encore qui fonctionnent selon le modèle dont parle Vincent ici, à savoir celui de la fondation actionnaire.
Donc ça, c'est la première brique. Du coup, la deuxième brique, c'est la question de la redirection du modèle économique. À certains égards, on peut dire que c'est un peu le nerf de la guerre, mais derrière ça, on entend plusieurs choses que j'ai déjà un petit peu évoquées, mais c'est en tant que tel se questionner, comme tu l'évoquais, sur l'utilité de ma ou de mes propositions de valeur, de ce que je mets sur le marché. Et donc potentiellement, on n'est jamais très loin d'un questionnement autour du renoncement. Par rapport à ce produit, dans quelle mesure je peux en limiter l'ensemble des impacts? Ça renvoie à la question également des pratiques commerciales et marketing plus équilibrées, moins centrées sur le volume, mais plus centrées sur la mission, sur l'utilité du produit, à quoi ça doit répondre, à quoi je réponds par rapport à un besoin du client et sans recherche de créer le besoin. Ça, c'est un élément central. Et je crois véritablement que les acteurs du marketing, et j'englobe là, les acteurs de la publicité, mais qui sont au service du marketing, doivent véritablement se transformer massivement parce qu'ils sont aujourd'hui très largement responsables de la société de consommation. Cette approche consumériste, ils contraignent très largement nos logiques de consommation.
Si vous avez encore un doute sur cette question, vous pouvez aller écouter ou réécouter l'épisode 16 dans lequel Mehdi Lagdar détaille justement l'influence néfaste du marketing et de la publicité sur nos comportements.
Aujourd'hui, on a quelques entreprises qui se posent la question de se fixer des limites. C'est très nouveau, avec cette logique de se dire je vais me donner une limite, parce qu'au-delà de cette limite, je ne serai plus dans ma mission ou le coût que je ferai supporter à la société, à mon environnement, sera trop important par rapport à l'utilité du produit que je vends. Et je crois que c'est possible essentiellement pour des entreprises qui se créent ou des petites entreprises, et a fortiori aussi des entreprises dont le capital est totalement maîtrisé. Pour une bonne part, ce que je te dis, c'est tout à fait aujourd'hui impensable pour des entreprises qui sont cotées avec un actionnaire éclaté et avec une complexité dans la prise de décision qui véritablement ne permet pas cette évolution-là. Après, j'ai déjà un peu répondu, mais aujourd'hui, par rapport à la question de l'idéologie autour de la croissance, de notre point de vue, on a trois grandes voies. Les champs de la croissance verte, de la possibilité du découplage, et pour moi, qui renvoie à une logique de pensée magique.
Mon garçon, la magie, ça n'existe pas.
Et on voit les milliards qui sont dépensés pour le captage du CO2, on voit un certain nombre d'exemples dans le monde de la géo-ingénierie et qui pourraient être des solutions à un certain nombre d'enjeux, et d'ailleurs essentiellement un enjeu carbone, mettant de côté toute une partie de la problématique environnementale.
Ça, j'espère que vous l'avez bien en tête, car on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans l'enquête.
Actuellement, ce qu'on appelle croissance, c'est essentiellement de détruire un espace gorgé de vie et de le remplacer par un parking de supermarché. Ça, c'est littéralement parlant de la croissance. Si on le fait avec de l'énergie solaire, avec de l'énergie nucléaire ou avec de l'énergie éolienne, ça ne change rien. À la fin, on a effectivement détruit une forêt pour construire un espace bétonné. À la fin, la vie est morte.
La question du CO2 est devenue l'arbre qui cache la forêt de l'effondrement du vivant et des limites planétaires. Ce n'est pas parce que nous surconsommerons demain grâce à une énergie verte que nous n'épuiserons pas les sols, la biodiversité, les océans et tout l'environnement auquel notre survie en tant qu'espèce est conditionnée.
Et c'est là où on est sur ce que moi je qualifierais d'un, non pas d'un changement de société, mais d'un changement civilisationnel. La question, elle est plus de se poser, est-ce que ça présente un intérêt ? La question, c'est, de toute façon, ça va faire mal. Donc plus je l'anticipe, voilà, plus je l'anticipe, moins ça fera mal. Et ce terme de croissance, quand on interroge des entrepreneurs, ils te disent à certains égards que ce n'est pas forcément systématiquement leur finalité. Et en fait, on se rend compte que c'est plutôt dans la sphère publique qu'on parle de. On a cette injonction à la croissance parce qu'on est dans cette recherche de plein emploi, on est dans cette recherche de croissance des points du PIB. Et au final, à une échelle microéconomique, ça ne se pose pas tout à fait de la même manière.
Je trouve la remarque de Vincent très intéressante. L'État mise sur la croissance pour générer des recettes fiscales, diminuer ses dépenses sociales et améliorer, au moins un peu, la situation des finances publiques. Mais au niveau des chefs d'entreprise, l'ambition de croissance n'a pas le même caractère impératif. Peut-être même que les entrepreneurs se contenteraient assez facilement d'une situation d'équilibre qui leur permettrait de maintenir leur activité. Pourtant, toute l'organisation administrative d'une entreprise tourne autour de la nécessité de tracer la croissance, l'évolution du chiffre d'affaires, les dépenses, les recettes, les investissements. Et c'est aussi là-dessus que sont organisés les contrôles du pouvoir public. Avez-vous bien déclaré votre TVA ? Or, les enjeux climatiques impliquent de tracer, tout aussi finement, autre chose, l'impact de l'activité sur l'environnement. Est-ce à dire qu'il va falloir non seulement créer des méthodes pour le faire, mais aussi réorganiser les entreprises dans cette perspective ? Qu'est-ce que ça implique ?
La capacité à comptabiliser, à évaluer, à se définir une trajectoire, des objectifs et à se donner des étapes de façon à s'assurer qu'on poursuit bien cette trajectoire. Et c'est aussi une condition d'acceptabilité, notamment des actionnaires, de montrer, c'est ce que je disais précédemment, que certes la rentabilité n'est pas maximisée, mais elle vient créer une autre valeur.
Et concrètement, comment fait-on pour tracer, compter, mesurer ?
Il y a une grande activité académique, c'est une spécificité française. Il y a un certain nombre de méthodologies qui ont été développées, mais il faut quand même se rendre compte que c'est une réelle révolution. La comptabilité universelle qu'on connaît aujourd'hui, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Et là, on va toucher à des choses qui sont parfois monétisables et parfois loin de l'être, voire même parfois difficilement quantifiables ou avec des biais extrêmement importants.
Alors, si c'est inquantifiable, Quels sont les indices qui permettent d'évaluer si une entreprise a engagé un changement de modèle?
Est-ce que dans ma politique de fusion-acquisition, j'ai un regard sur des éléments extra-financiers? Ou est-ce que mon prisme est uniquement la trésorerie, les résultats d'exploitation des précédentes années, enfin les indicateurs qu'on connaît classiquement? Deuxième élément, c'est la diversité des boards, c'est classiquement. Le troisième élément, c'est le chiffre d'affaires qui est consacré à la formation. Le quatrième élément, c'est de regarder un peu le portefeuille des projets qui est soutenu au sein des directions R&D. Est-ce que ces projets-là visent à identifier ou à essayer de questionner de nouveaux modèles économiques, à essayer de faire shifter un peu l'entreprise? Et parce qu'on sait très bien que si les entreprises n'ont pas questionné un peu ces différents éléments-là, on pourra tout lire sur des belles phrases. L'entreprise, c'est avec ses 50 000 collaborateurs, femmes et hommes engagés, respectueuses de l'environnement, responsables et durables.
Ben voyons, mon colon.
Nous ne sommes pas dupes.
That's really bullshit.
Là, on essaye de trouver des stratagèmes pour se dire, là on a quelque chose, là on peut faire quelque chose avec cette entreprise. Je crois que le plus difficile, il est de faire évoluer les croyances, les imaginaires des dirigeants, des actionnaires. Je crois qu'on aurait besoin de mettre un peu sur le divan un certain nombre de dirigeants pour leur faire prendre conscience qu'ils sont englués, très largement biaisés dans leur lecture, qu'ils ont une forme de cécité sur une partie de leur sujet. Ils n'ont pas une approche très heuristique de la réalité de leur secteur, de leur métier. Et puis des dimensions exogènes qui viennent les impacter aujourd'hui et qui les impacteront massivement, voire qui remettront en cause la réalité de leur entreprise. Pour ne pas citer une marque, avoir comme baseline la mode à petit prix, aujourd'hui, tu ne peux pas faire le poids avec des marques comme Shane et autres. Mais c'est vraiment une remise en cause de toutes leurs croyances, de tout ce qu'ils ont connu, appris dans leurs écoles, de tout ce sur quoi ils sont incentivés au quotidien. Donc c'est difficile.
Et oui, c'est difficile. On en parle depuis le début de cette enquête. La transition n'est pas qu'une histoire de technique, d'outils, de modèles. C'est avant tout une histoire d'imaginaire, de croyance. Ce qu'on se raconte sur nous en tant qu'espèce, sur notre vocation à dominer le monde, sur la puissance infinie du progrès. Ce qu'on croit être une vie réussie, ce qui manifeste notre statut social, ce qui définit notre identité. Si nous n'arrivons pas à prendre les problèmes climatiques et géophysiques à bras le corps, c'est parce que nous sommes déchirés, ébranlé au plus profond dans toutes ces couches imaginaires qui constituent qui nous sommes. Alors, chaque élément susceptible de faire évoluer ces imaginaires est bon à prendre. Et en la matière, questionner la croissance automatique des entreprises est sans doute fondamental.
Et quand on pose la question à certains acteurs du commerce, ils vont nous dire « Mais rendez-vous compte, moi, à chaque fois que je fais mon prévisionnel à N+1, je peux déjà mettre de fait un plus 5% sur mon chiffre d'affaires parce qu'il y a une évolution de la masse salariale, voilà, d'autant plus en période d'inflation, parce que les matières premières vont évoluer, parce qu'on va revoir le logique de contractualisation avec mes sous-traitants, etc., etc. Donc, de fait, ils sont un peu contraints à une certaine forme de croissance. Et donc, ce n'est pas illogique que sur des pas de temps, quand ils font des exercices stratégiques à moyen terme, je ne sais pas, à plus à 2030, par exemple, ils te disent je vais faire un x2. Parce que on est dans une société avec une certaine forme de gourmandise de l'apocalypse. Enfin, on n'a jamais été plus conscient des limites planétaires, du mur qui se rapproche, et on ne dévie pas. Alors, On a quelques entreprises inspirantes, alors qui ne sont pas alignées sur tout, parce que bah, c'est compliqué. Mais c'est des entreprises qui sont aujourd'hui, qui communiquent pas mal. La Camif est un très bon exemple, parce qu'elle a vécu l'obsolescence de son modèle et a trouvé un second souffle, proche du dépôt de bilan, et avec une volonté de relocaliser. Je crois qu'ils sont à 70% de leur catalogue qui est fabriqué en France. Mais c'est les premiers. Ils communiquent énormément là-dessus. Ils communiquent sur le fait qu'ils ne font pas le Black Friday, un peu comme Patagonia et sa campagne « Don't buy this jacket » le jour du Black Friday. Donc voilà, il y a aussi cette... ils alignent aussi un certain nombre de... ils alignent le marketing et la pratique commerciale à ça. Après, on a des acteurs qui tentent des choses, mais qui ne représentent pas grand-chose aujourd'hui sur le chiffre d'affaires. On a Darty avec l'abonnement Darty Max qui vise à lutter contre l'obsolescence programmée de nos produits électroménagers.
Quand on vous dit que c'est parti pour durer, c'est parce qu'avec l'abonnement Darty Max, vous pouvez faire entretenir et réparer vos appareils en illimité, qu'ils viennent de chez Darty ou même d'ailleurs.
On a un acteur comme Decathlon, mais ça représente... C'est un pouillème de leur chiffre d'affaires qui aujourd'hui s'est engagé à avoir dans l'ensemble de ses magasins un espace pour des produits d'occasion, avec des monomatières qui du coup se recyclent davantage, avec un questionnement sur le nombre de collections. Et ça, c'est des choses qui sont pas inintéressantes. Donc ça, c'est sur des entreprises qui étaient quand même sur des choses pas simples. Après, tu as toutes celles qui... nativement ont un objet qui répond de fait à ces enjeux de transition. On travaille avec une très belle ETI dans la Drôme qui invente un peu la casse automobile de demain, quoi. En fait, ils font une gigafactory des pièces détachées de l'automobile, et ça a d'autant plus de sens qu'aujourd'hui on est on a un allongement des délais sur les différentes pièces automobiles, que ça coûte de plus en plus cher. Voilà, et c'est une entreprise qui est florissante, qui aligne sa gouvernance, qui réfléchit à un autre partage de la valeur. Mais c'est aujourd'hui encore un peu marginal. Et puis certains acteurs qui voulaient faire les choses différemment ont été rattrapés. Enfin, on voit bien ce que vit aujourd'hui le secteur du bio. Que ce soit l'alimentation ou même la cosmétique bio. Enfin, je veux dire, dans une période d'inflation qu'on subit tout un chacun, évidemment, c'est compliqué de vouloir consommer systématiquement ce type de produit. Mais on a été effectivement mal habitués. Enfin, il n'est pas normal que... Enfin, on devrait avoir conscience que quand on achète, un t-shirt à 5 euros, on marche sur la gueule de quelqu'un, quoi. J'ai l'impression qu'on s'est un peu installé dans une forme d'économie paresseuse. L'économie linéaire est pour moi une économie paresseuse et dévoie à certains égards ou montre la schizophrénie ou les lignes de tension du capitalisme qui nativement s'est constitué au travers de la notion un peu de prise de risque. Et en fait, j'aurais envie de dire, là, aujourd'hui, on a un terrain de jeu potentiellement hyper enthousiasmant, complexe, enthousiasmant, mais qui renvoie à cet ADN du capitalisme à l'origine. Avec une prise de risque capitalistique, des drames aussi humains d'un certain nombre de territoires, mais qui renvoie à ça. Donc, pour moi, c'est passé d'une économie paresseuse et qui nous emmène dans le mur où on est sur en première classe sur le Titanic et on demande à l'orchestre de continuer à jouer de la musique pendant qu'on s'enfonce. Une économie, circulaire, plus complexe, limité, avec une partie qui doit croître et une partie qui doit décroître, et qui évidemment, qui avec oui, une quadrature du cercle compliquée, avec des équations compliquées, avec beaucoup d'inconnus, mais qui est à certains égards enthousiasmante. Et si on veut se donner des chances de s'inscrire sur le temps long, de transmettre, de pérenniser, bah, qui doivent prendre en compte cette complexité. Alors, est-ce que ça doit être contraint? Pour moi, il y a plusieurs formes de contraintes. On a un petit peu évoqué, il y a la contrainte liée au consommateur, alors qui est quand même déjà lui-même très contraint dans ses choix de consommation. Il y a le législateur, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt, c'est ce que je t'évoquais. Et puis après, il y a une brique qu'on n'a pas du tout évoquée, ce sont les financeurs. Et qui sont une forme de contrainte, qui devraient jouer un rôle de contrainte. On tape beaucoup sur les banques, mais l'essentiel du financement des entreprises, c'est du private equity. Et les acteurs du private equity, il y avait une étude qui était sortie il y a un an ou un an et demi, je ne sais plus, qui évoquait que 1% des acteurs du private equity ont réellement, dans leur portefeuille d'investissement, des investissements qui sont alignés avec l'accord du Paris. Donc le gap, il est là. Pour moi, il y a deux choses aussi importantes. Je vais un peu au-delà de ta question initiale. C'est qu'on replace un peu le scientifique au centre, scientifique au sens technique, et puis aussi le scientifique, mais qui vient du monde des sciences humaines, et qui comprend que l'essentiel de nos décisions sont des décisions, quoi qu'on dise, l'ensemble de nos théories économiques, qui sont pas rationnelles.
Alors là, je ne saurais être plus d'accord. Rationnel, nous ? Mais si on l'était, la planète serait sauvée. On ne se serait jamais fait la guerre. Maintenant qu'on connaît les ravages de notre mode de vie sur l'environnement, qu'on sait que les limites planétaires sont franchies les unes après les autres, eh bien, on s'attellerait tous à changer de comportement si nous étions des êtres rationnels. Mais toutes nos décisions, tous nos comportements sont guidés par nos valeurs, nos croyances, nos imaginaires, qu'ils soient individuels ou collectifs. Alors pourquoi l'agent économique serait-il plus rationnel que le Pékin moyen ? Sur ce sujet, comme sur d'autres, on se raconte de belles histoires. Alors, peut-on attendre des dirigeants d'entreprise qu'ils se montrent plus rationnels que vous et moi ? Finalement, on en revient au constat qu'un acteur ne peut rien tout seul, qu'il faut une cohérence entre les agissements des pouvoirs publics, ceux des consommateurs et ceux des financeurs, pour que le système ait une chance de se transformer. Pour le moment, quelques pionniers ouvrent la voie dans chaque catégorie. Mais pour se lancer, il faut accepter de prendre des risques, d'aller vers l'inconnu, accepter l'éventualité de se tromper. Or, tout notre système est basé sur une logique de performance, qui est aussi une logique de maîtrise. Réussirons-nous à en sortir ? On creusera la question au prochain épisode.
Enquête d'avenir.
L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtedavenir.com.